toujours en direct sur Radio Plus depuis le salon du printemps. Voilà, donc je disais que nous étions en direct du salon du printemps de Saint-Angoël, toujours hein, depuis 9h ce matin sur Radio Plus. Et tout de suite, Martine, oui, on va baisser un petit peu le son. Martine, oui, on te retrouve dans un stand.
Eh bien, oui, Jean-Philippe.
Avec donc, je crois, des nichoirs d'insectes.
Voilà Jean-Philippe, alors je me retrouve toujours dans ce salon de Saint-Angoël, ce salon du printemps de Saint-Angoël. Je me retrouve devant un stand, devant des petites, on va dire, comme des petites maisons qui sont remplies de bois. Et alors, bon, je sais quand même que ce sont ce sont pas des nichoirs, ce sont des hôtels à insectes.
Ah oui, c'est vrai que c'est plus précis que ça, hein.
Voilà. Des hôtels. Mais il y a aussi des nichoirs. Alors, je passe la parole donc au président. C'est une association? Non, c'est pas une association. Ce sont, je crois avoir compris que vous êtes étudiant.
C'est ça. Je suis étudiant à l'Université des Compagnons d'Arras.
Alors, déjà, vous pourriez peut-être nous en dire deux mots de cette université des Compagnons d'Arras.
En fait, j'ai commencé par un CAP couverture à l'université. Par la suite, j'ai fait une mention Zingris. Après, je suis reparti sur un CAP charpente. Et maintenant, je suis en BP charpente cette année, quoi.
Donc, vous travaillez le bois.
Là, je suis sur le bois. Avant, c'était sur tout ce qui est ardoise, Zingris. On va dire que c'est un peu grâce à cette école que j'en suis arrivé là aujourd'hui, quoi.
Et il y a une particularité aussi, ce sont les compagnons, c'est quelque chose de très spécifique, expliquez-nous ça.
Bah moi je suis pas compagnon en fait, je suis étudiant chez les compagnons. Les vrais compagnons c'est ceux qui sont vraiment, enfin ils voyagent, ils sont vraiment pris par ça, enfin ils peuvent pas... Moi je suis vraiment qu'étudiant, je vais à l'école, j'ai pas une entreprise, enfin si j'ai mon entreprise fixe en fait... Et eux, en fait, ils font plusieurs entreprises pour voir plusieurs choses différentes dans d'autres régions pour améliorer leurs compétences, en fait, tout simplement. Et moi, je suis vraiment resté sur l'étude classique chez les compagnons. Là, je suis, comme je vous ai dit, en BP charpente. Et enfin, je fais ça en plus de mon travail. Je fais mes 35 heures semaine. Je fais ça le soir chez moi ou le week-end.
En tous les cas, c'est bon à savoir puisque justement les compagnons, donc il y a une université et c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent justement pour poursuivre leurs études sans forcément être obligé de passer par la case compagnonnage et voyage, etc. Quoi. Voilà, donc ça c'est bon à savoir.
Alors, ce que vous avez appris justement, vous le mettez aujourd'hui au service de la nature, c'est-à-dire que vous avez décidé de construire en quelque sorte, de confectionner, on va dire, des hôtels pour insectes. Alors,
non, moi c'est les nichoirs, les hôtels.
Les nichoirs,
c'est
d'accord.
Mon collègue.
Donc on interviewera le collègue par la suite. Donc vous, ce sont les nichoirs. Alors.
Donc moi, je suis déjà passionné de nature à la base, donc c'est on va dire qu'au final, tout ce qui est fête des plantes, je suis dans mon milieu, quoi. Je suis content d'être là. C'est pas ma première fête des plantes. Ma première, c'était à Locon, avec Rudy. Ma deuxième, c'était à Celles, en Belgique. Et après, j'ai fait une petite expo à Douai, le week-end dernier. Donc là, c'est ma quatrième expo. Ça s'est bien passé pour moi, pour le moment. Je fais pas mal de ventes. Mais je compte continuer, me spécialiser plus dans les nichoirs, faire encore d'autres types de nichoirs pour des autres espèces d'oiseaux, quoi. Et aussi faire d'autres choses, j'ai d'autres projets aussi pour avoir des nouveautés chaque année. Enfin, on va essayer d'avoir des nouveautés chaque année.
Mais forcément, c'est une confection qui implique quand même des connaissances en oiseaux, espèces d'oiseaux, parce que tous les nichoirs sont différents.
C'est ça. En fait, je commence à étudier justement les espèces d'oiseaux, puis étudier aussi essayer de trouver les bons nichoirs pour les nichoirs qui sont vraiment efficaces, c'est surtout ça. Enfin, il y a des normes à respecter, enfin des dimensions à respecter. Et j'essaye de faire ça vraiment dans les règles de l'art, quoi.
Alors justement, sur le stand que vous proposez, qu'est-ce qu'il y a comme type de nichoir, si je puis m'exprimer ainsi?
Alors, pour l'instant, il y a les nichoirs pour les mésanges, pour les rouges-queues et les rouges-gorges.
Et du coup, quelle est votre clientèle? Est-ce que ce sont des particuliers ou est-ce qu'il y a aussi des collectivités qui commencent à s'intéresser à ça?
Ben, j'ai vendu un nichoir justement en Belgique à un paysagiste qui avait l'intention d'offrir le nichoir à une cliente en fait, tout simplement. Mais sinon, ça reste beaucoup particulier, principalement quoi.
D'accord. Et donc, ça vous prend combien de temps pour réaliser un nichoir comme ça?
Ben, un nichoir avec deux pans, je suis environ un petit peu moins de 5 heures de travail sur un nichoir.
Ah oui, c'est quand même 5 heures de travail.
Ouais, c'est ça. Et sur les autres modèles, je suis plus dans les 3-4 heures de travail. Tout dépend du modèle après.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas que du bois hein, sur vos nichoirs. Hein. Expliquez-nous.
Il y a de l'ardoise. C'est de l'ardoise naturelle en fait. Il y a aussi du zinc, du cuivre. Le bois, il est traité à l'huile de lin. Bon, c'est que des produits naturels quoi.
Et ça permet justement une meilleure résistance dans le temps, face aux intempéries, etc.
C'est ça, ce sera très résistant. Enfin, le bois, il fait 32 mm d'épaisseur, avec la toiture en ardoise, un débord sur le côté pour éviter justement l'humidité constante sur le bois. Enfin, ça devrait vraiment être durable, quoi. Enfin, moi, j'y crois.
Très bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez envie de développer au sein de votre entreprise. Comment ça se passe?
Peut-être par la suite, mais pour l'instant, je compte faire ça en amateur, faire mon travail et faire ça à côté en amateur.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, donc, Jean-Philippe, hein, on en revient à mes petites maisons, petits hôtels pour insectes. Alors, votre prénom?
Rudy.
Voilà, alors bonjour Rudy. Donc, vous allez nous expliquer, alors, parce que finalement... Celle-ci m'intrigue assez, vous voyez, avec tous ces petits trous, ces pommes de pin. Ça veut dire que c'est un hôtel qui accepterait tous les insectes.
En fait, dans la lignée de mon ami, moi, c'est pareil, c'est pas mon activité principale. J'ai un emploi à temps plein, donc je fais ça vraiment par passion et par plaisir. En fait, vous avez l'hôtel insecte. Donc, l'hôtel insecte qui va permettre d'éviter au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires, d'accord. Donc, chaque en fait logement a une particularité pour accueillir alors soit les insectes prédateurs, soit les insectes pollinisateurs, qui vont vraiment aider alors nos jardins. Alors, les insectes prédateurs, en l'occurrence, c'est beaucoup tout ce qui concerne les pucerons. Donc vous allez avoir les coccinelles, les perce-oreilles, toute une multitude d'insectes. Et après il y a les insectes pollinisateurs qui vont polliniser nos fleurs en l'occurrence et qui vont avoir un entre guillemets un logement, un petit hôtel bien sympa où ils peuvent se reposer et passer l'hiver tranquillement et protéger contre leurs prédateurs aussi à eux quoi en fait.
Alors justement, je me mets à la place d'un auditeur qui n'y connaît pas grand-chose en matière
Oh, il n'est pas le seul, hein, tu sais, Marc.
De biodiversité ou de nature. Et l'auditeur va se dire, mais à quoi ça sert de faire un hôtel pour des insectes prédateurs, justement?
Alors, c'est des insectes prédateurs, mais prédateurs pour les pucerons, et pas pour nous, en fait. Pas pour nos jardins, en fait.
Justement, le puceron, tout le monde cherche à s'en débarrasser.
Voilà, donc il n'y a aucun puceron qui va venir dans mon hôtel. Donc en fait, c'est vraiment les coccinelles que les gens apprécient, c'est les pince-oreilles qui dévorent les pucerons à longueur de journée, et c'est eux qui vont vraiment nous intéresser en fait. On n'a pas d'insectes néfastes dans un hôtel à insectes en fait.
Ce qui veut dire que cet hôtel-là,
oui,
je me place en tant que novice.
Hein. D'accord. Ouais.
Donc cet hôtel-là va attirer les pucerons qui vont être ensuite détruits.
Non. 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 En fait, ça va être un gîte pour tous des insectes utiles pour nos jardins. Et ces insectes utiles pour le jardin vont se promener dans notre jardin et vont de là attaquer, manger les pucerons. Alors, en aucun cas, vous retrouverez des pucerons dans ces hôtels insectes.
Ok.
Alors moi, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu la particularité, j'ai envie de dire architecturale de cet hôtel. Parce qu'en fait, il y a plein de matériaux qui sont imbriqués de différentes manières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça et à quoi ça sert précisément?
Alors, en fait, vous avez les pommes de pin qui, en fait, chaque insecte a un habitat, en fait, bien spécifique à lui-même. Donc, les pommes de pin vont accueillir les coccinelles ou, après, vous avez cette petite niche ici qui vont accueillir les bourdons. Donc, c'est vraiment des habitats bien spécifiques à eux. Ici, vous avez les bouts de bois qui vont accueillir les abeilles solitaires, les bourdons, Tout est pensé pour chaque insecte différent et chaque insecte utile, en fait.
Oui, parce que, par exemple, il y a aussi de la brique, je vois.
Oui, alors la brique, c'est pareil. Ça va être un lieu pour tout ce qui est abeilles. C'est un lieu frais, c'est un lieu idéal pour eux. Donc, ça va être top.
On parle, bien sûr, Jean-Philippe, d'abeilles sauvages.
Oui,
oui. Ouais, il y a les abeilles solitaires, la guêpe maçonne. La guêpe maçonne qui, en l'occurrence, va elle-même... aller dans les bambous et creuser dans le bambou pour faire elle-même son nid, en fait. Donc, à l'occurrence, ils peuvent même pondre des larves et voir naître des bébés, en fait, quoi.
Toutes ces connaissances, vous les avez accumulées en observant ou en vous documentant?
Alors, ça fait des années et des années, depuis que je suis tout petit, que je suis dans le jardin, en fait. C'est vraiment ma passion à part entière. Il y a quelques années, l'hôtel insecte s'est démocratisé, et puis à force de recherche, d'intéressement, je me suis entre guillemets spécialisé dedans, quoi.
Donc on l'a compris, Jean-Philippe, un hôtel comme celui-là, c'est vraiment l'ami du jardinier.
L'ami du jardinier,
qui veut développer un jardinage bio.
Un jardin propre, ouais.
Bio. Bio, ouais. Surtout, ouais. Sans phytosanitaire.
Tout à fait, ouais.
Et alors, je vois que ça se développe aussi. Il y a beaucoup de collectivités qui en mettent de plus en plus, hein, des hôtels à insectes. J'en ai vu l'autre jour personnellement du côté de Wagny, justement. Et voilà, donc à l'entrée même de la forêt de Falampin, il me semble. Et donc voilà, on se rend compte, en fait, vraiment, les collectivités commencent vraiment à se rendre compte de l'utilité de ces hôtels à insectes. Hein. Et ça se développe depuis quand, alors?
C'est vraiment efficace, en fait. On se rend compte de plus en plus que c'est efficace et ça permet, voilà, d'éviter tout ce qui est produits phytosanitaires. Ça permet de rester dans la lignée de l'écologie, en fait. On en parle de plus en plus. Il faut préserver notre planète, en fait.
C'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi une chose importante que tu as souligné, Martine, tout à l'heure, c'est que aujourd'hui les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, et donc effectivement, ça peut être quelque chose de très utile. Alors, il y en a de toutes les tailles, des hôtels à insectes. Comment ça fonctionne?
Alors, ouais, on peut créer toutes les tailles. En fait, on peut, d'ailleurs, souvent les collectivités, on en met très gros. Ils les mettent dans des ronds-points. Moi, j'essaye de créer quand même des beaux hôtels, mais avec aussi des plus petits pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, en fait. Voilà.
Très bien. Et donc, justement, on peut avoir plus d'infos sur... Est-ce qu'on peut faire, par exemple, aussi soi-même de ce genre de choses? Est-ce qu'on peut trouver des infos là-dessus sur un site internet, etc.?
Oui, tout à fait. Oui, sur internet, si on met hôtel insecte, on a toute une multitude d'informations et on peut très bien faire son hôtel insecte soi-même. Oui, ouais, ouais, y a pas de souci.
Très bien. En tous les cas, si on souhaite plus d'infos et si on souhaite vous contacter pour avoir des conseils, justement, et puis pourquoi pas acheter vos hôtels, comment fait-on?
Il y a mes coordonnées sur l'expo et on essaye de se déplacer de plus en plus pour pouvoir se faire connaître et espérons que ça fonctionne.
Alors vous pouvez aussi donner éventuellement un numéro de téléphone ou un site internet puisqu'on est également sur les ondes en direct sur Radio Plus. Donc,
alors je vais vous donner mon numéro de téléphone, c'est le 07 69 50 82 01.
Voilà, et donc là on vous contacte et puis vous expliquez tout évidemment aux personnes qui veulent en savoir plus sur ces hôtels à insectes. Merci beaucoup, Rudy.
Merci à vous.
Merci, Rudy.
Un peu de musique ou on va dans un instant? Un petit peu de musique. D'accord. On va peut-être s'intéresser. On devait parler des palmiers, il me semble, Martine.
Tout à fait. Je vais essayer de retrouver Jacques Zwitalski afin qu'il nous parle des palmiers.
Voilà. Et puis, en attendant, donc, on va écouter, tiens, on va parler de fleurs avec Salvatore Adamo.
Fleurs posées à la tombée du soir. sur le pas d'une porte plein d'espoir. Fleur effeuillée, fleur, dis-moi si elle mène. Fleur, ma question est toujours la même. Fleur des instants retrouvés qui ramènent un sourire d'un tendre passé. Fleur, songe à la douceur d'aller là-bas où le poète invite au voyage. Fleur, j'ai gardé au cœur le souvenir d'un parfum et des traits. Fleur, bouquet charmant pour la mariée. Fleur, jetée au vent, les yeux fermés. Fleur, trop maquillée, fleur des grands soirs. Un peu de sa laideur, fleur aux corolles d'or sous le soleil, pour un peintre fou qui s'émerveille. Fleur, songe à la douceur d'aller là-bas où le poète invite au voyage.
Fleur, alors je ne sais pas si Martine est... Oui, tu es prête Martine, je t'écoute.
Eh bien oui, je suis donc en compagnie de Jacques Zwitelski, président de Nœud Environnement. Et je l'ai promis tout à l'heure, nous allons parler palmiers parce que Jacques est aussi très amateur de palmiers. C'est une véritable passion qu'il voue aux palmiers, n'est-ce pas Jacques?
Oui, effectivement. Et tout d'abord, je voudrais dire que dans une région, il vaut mieux privilégier les espèces locales. Alors, les palmiers dans le Nord-Pas-de-Calais, cela peut paraître un peu étonnant, mais lorsqu'on a des milieux naturels, espèces locales, et quand ce sont des milieux artificiels, eh ben, on peut se permettre certaines originalités végétales qui invitent au rêve. Alors, au niveau des palmiers, ben, je vois le stand du Radio Plus. Alors, vous avez deux palmiers. Est-ce que vous connaissez les noms?
Absolument pas.
Je m'en doutais. Donc, je vais vous le dire. C'est les Trachycarpus fortuneis. Alors, Trachycarpus, ça vient du grec. Et fortunei, ben, c'est le nom de Robert Fortune. C'est la personne qui, au début du siècle dernier, avait d'ailleurs mis le thé en Inde. Et il avait rapporté ces espèces. Il y en a au cerf de Kew Garden en Angleterre, et donc c'est l'une des premières espèces qui sont arrivées ici dans le nord de l'Europe. Alors la particularité de ces espèces, ben, c'est qu'elles résistent à moins 15 degrés.
Ben, c'est étonnant ça.
Alors effectivement c'est très étonnant, mais il faut savoir que dans leur milieu d'origine, ben, ces plantes-là ont des hivers comparables aux nôtres. Donc le climat enfin il est originaire de Chine, hein. Il y a certains endroits de Chine où l'hiver est assez rude, avec de la neige, il n'est pas rare de le voir 15 jours, 3 semaines sous la neige. Alors la particularité, lorsqu'on l'observe, c'est que en dessous de moins 10 degrés, les feuilles commencent à être grillées par le gel, mais tant que cette température n'est pas atteinte, il reste vert et il reste très beau. Alors pourquoi des palmiers dans le nord? Vous allez me dire c'est pas toujours très
en harmonie
avec
nos terris.
Voilà, tout à fait. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir arriver à créer, disons, des espaces où l'on se sent bien, où est-ce que l'on est heureux, si possible, et où est-ce qu'on a envie de se détendre. Donc, ce qui invite au rêve, donc, ce sont ces plantes-là. D'ailleurs, je dirais que je fais partie d'une association nationale Foot Palmier, où je suis le correspondant départemental, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et donc, ça me permet, donc, de temps en temps, d'écrire des petits articles sur la résistance au froid des palmiers. Alors, celui-ci, il s'est pas simplement acclimaté, il s'est naturalisé. La différence, c'est quoi ? C'est qu'il s'est acclimaté, c'est-à-dire qu'il pousse comme toutes les autres plantes, mais naturalisé, c'est-à-dire qu'il arrive à produire des graines qui se ressèment spontanément. Alors chez moi, j'en ai en dessous des haies, dans les cailloux, sous les arbustes, enfin, j'en ai un peu partout, donc je suis obligé tous les ans un peu de retirer et de les mettre en pot, et ensuite je les offre à mes voisins. Ben, vous venez chez moi, mes voisins d'en face, il y en a pas mal. Donc vous avez l'impression de vous trouver dans le midi, quoi. Et finalement, c'est un peu l'effet recherché. Et lorsqu'on a réussi à trouver une espèce qui résiste bien au froid, on a dit, bah tiens, on va essayer d'autres espèces. Alors j'ai essayé d'autres espèces, bien évidemment, parce que là, c'est une espèce avec une feuille palmée. C'est-à-dire vous avez une tige et une palme autour. Et ensuite, vous avez les espèces à feuilles pennées. C'est-à-dire que les feuilles sont comme des plumes. Donc ce sont les Phoenix canariensis. Donc j'en ai mis un chez moi qui fait maintenant 7-8 mètres de haut. Donc c'est assez considérable et il n'est pas rare de voir des personnes qui s'arrêtent en me disant « Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils ?» D'abord le nom de ces espèces de plantes, parce qu'effectivement c'est très joli, c'est original et puis ça nous fait penser aux vacances. Donc voilà ce que je peux dire, mais je peux encore continuer. Alors si on continue dans les autres espèces, il y a le Buscia capitata. C'est le deuxième que vous pouvez mettre, il résiste à moins 10. Lui il est à feuilles pennées, il est arqué et il est très 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 élégant. Donc, et ensuite, il y a également les Jubea chilensis, qui eux sont originaires du Chili et qui résistent également à moins 15, quoi.
Mais alors, quelle est la première précaution à prendre pour planter un palmier? D'abord, le lieu d'achat, peut-être.
Alors, le lieu d'achat, ben, maintenant, vous en avez partout dans les jardineries. Donc, c'est le Trachycarpus fortunei, ça, c'est clair. Et ensuite vous comparez. Enfin, de temps en temps, je vais en Belgique parce que les prix sont un peu plus intéressants. Mais je crois qu'il y a important, c'est de discuter avec les gens. Alors, pour les conseils de plantation, surtout, contrairement aux autres arbustes, c'est de ne pas le planter à l'automne, mais c'est de le planter au printemps. Pourquoi? Parce que, il faut que les racines se fassent, et au cours du premier printemps, l'arroser abondamment. Parce que la particularité de ce palmier-là, c'est qu'il aime l'humidité. Et ici, dans le Nord en général, nous n'avons pas de problème. Et autre particularité, c'est que ce palmier-là, il est beaucoup plus beau dans le Nord que dans le Sud, dans le Midi méditerranéen. Pourquoi ? Parce que là-bas, il fait trop sec. Donc, ce sont d'autres espèces, bien évidemment. Mais ici, vous avez tout de même cette espèce qui va sans doute devenir de plus en plus importante et qui va bientôt commencer à orner nos villes parce que les gens, souvent, essayent de trouver un peu d'originalité, des espèces différentes. Et cela, ben, je pense, va y contribuer, quoi.
Et puis, il y a des communes aussi qui font des opérations l'été en transformant une partie, un bout de leur ville en plage. Et donc, du coup, elles amènent des palmiers, des choses comme ça. Hein. Quand on a des communes, on a pas mal de communes hein, par ici qui transforment un petit peu le temps de l'été leur commune en plage.
Alors, d'ailleurs, on peut constater, ça me fait rappeler, que vous allez sur le littoral, sur la côte d'Opale. Vous arrivez à Berck, vous arrivez à Étaples et vous commencez à en avoir sur les ronds-points. Donc, vous verrez que d'ici quelques années, vous en aurez beaucoup plus. Bon, je pense que les gens sont peut-être un peu frileux. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont se faire et vous arriverez à avoir de beaux exemplaires comme ceux que j'ai chez moi et qui, en général, plaisent beaucoup, quoi.
Mais alors, Jacques, bon, vous êtes président de Nœuds Environnement. Nœuds Environnement, évidemment, pour la biodiversité. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le palmier et la biodiversité? Est-ce que ces arbres, ces palmiers, apportent quelque chose au niveau de notre biodiversité?
Localement, je suis pas suffisamment compétent pour vous répondre de manière claire et précise, mais c'est plutôt un goût personnel. Donc il n'y a pas de lien entre l'association de l'environnement qui privilégie les espèces locales dans les milieux naturels, ça je le dis et je le redis, mais comme je redisais tout à l'heure également, c'est que dans les endroits urbains, dans les endroits artificiels, on peut se permettre quelques originalités végétales. Mais donc il n'y a pas de lien spécifique, mais si on peut en trouver un, ben, c'est la nature, c'est le respect du végétal, la beauté des plantes, et quand on sait les apprécier, parfois on peut s'asseoir et puis être contemplé, de contempler ce qui nous entoure, observer les insectes. Enfin, je crois qu'il faut savoir prendre le temps. Ne pas courir et puis apprécier les moments présents parce que le temps passe si vite et souvent on remarque que l'on passe, on vit et puis on oublie parfois des choses essentielles. Il y a les plantes et puis il y a aussi les personnes qui nous entourent. Donc je crois qu'effectivement il faut jamais oublier donc les personnes qui sont là avec qui l'on est. On a souvent l'habitude, mais il faut savoir redécouvrir les personnes et les plantes comme elles sont et puis les respecter et vivre en harmonie avec elles.
Merci Jacques.
Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être poursuivre sur un autre stand, justement. On va s'intéresser... il y a un atelier, effectivement, de sculpture sur fruits et légumes. Alors, on va essayer d'aller découvrir ça. C'est juste sur notre gauche, Martine. Voilà, juste à l'entrée du salon. Et donc, on va essayer d'interroger... Madame et monsieur qui sont en train de faire des choses très
une
originales.
Une chose superbe, hein, avec une... Le nom va me revenir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur, vous vous appelez ?
Ah, Jean-Claude Renaud. Je suis le papa de Sawitri Renaud.
Et alors, donc...
Beau papa.
Beau papa. Elle m'appelle toujours papa, alors, des formations.
Alors, expliquez-nous un petit peu cet atelier.
Eh bien, ici, c'est la sculpture sur fruits et légumes. Donc, c'est un art typiquement thaïlandais. C'était en fait pour décorer les tables du roi. Donc, ça s'apprend là-bas dans les écoles primaires ou les écoles secondaires. Et surtout, il y a des écoles spécialisées. Donc, elle est diplômée d'une école de Chiang Mai.
Eh bien, on va découvrir ça parce que je vois qu'elle utilise des outils assez particuliers. Une sorte de cutter ou comment on pourrait appeler ça?
Oui, ce sont des petits cutters. Elle travaille avec une boîte genre bricolage avec deux manches et des outils interchangeables suivant le travail à effectuer. Bon, ça c'est pour le travail de précision. Sinon, pour faire du travail plus simple comme celui qui est présenté sur le salon ici et qui fera l'objet d'ateliers cet après-midi ou en fin de matinée s'il y a assez de monde. Pour fabriquer des petits sujets, un pingouin, une tortue, un cygne, un bouquet de fleurs avec des radis et aussi des fleurs avec un poireau.
Ce que j'aime bien, c'est que vous me dites des choses plus simples. Mais moi, je suis incapable de les faire.
Non, c'est très simple, il n'y a pas de souci. Les enfants peuvent le faire, les adultes. C'est assez simple et elle explique bien.
Alors, en plus, Jean-Philippe, j'ai devant moi un cygne confectionné avec une pomme. C'est tout à fait magnifique.
Bonjour.
Un cygne, pingouin, avec les tatous, avec une pomme. Et là, des fleurs avec des poireaux.
Avec des poireaux, ouais. Un poireau. Ouais. Alors ça, si je me permets, si je peux me permettre, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est thaïlandais, mais on fait la même chose un petit peu au Japon, en Chine. C'est vrai que cet art, cette patience, je dirais que c'est vraiment asiatique. Hein.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est, les asiatiques sont reconnus pour leur patience. C'est
leur patience, ils ont des doigts d'or.
Oui, ben ils font beaucoup de. D'instruments électroniques, les Japonais, les Coréens, mais la Thaïlande est vraiment spécialisée pour la sculpture sur les fruits et légumes.
Et ça fait combien de temps alors que vous faites ça?
4 ans. Avant, en Thaïlande, encore 6 mois, 4 ans et demi, j'ai travaillé.
Donc ça fait seulement 4 ans en fait.
Ça. Tu vois, Jean-Philippe, tu peux apprendre.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes né avec ça dans les mains, hein, avec l'outil dans les mains. Hein. Franchement, c'est admirable. Mais donc, du coup, ça vous prend combien de temps justement de faire ce genre de
Alors,
de
par exemple, ce petit signe dans la pomme.
Les signes, ça travaille comme 2 minutes. Les signes, c'est défini. Deux minutes.
2 minutes.
2 minutes.
Pour faire un signe comme celui-ci.
Oui. 2 minutes. Et bon. Là, attends un petit peu.
Une petite tortue.
Tatou. 5 minutes.
Cinq minutes pour faire une tortue
coupé,
dans une
tout
pomme.
Tout petit comme ça. Couper à tout petit peu comme ça. C'est compliqué à tout petit peu.
D'accord.
3 minutes. Et là, pas compliqué pour l'enfant.
Avec, là, c'est une on va dire.
Penguin. Penguin.
Oui, non, mais le,
ouais.
Le légume.
Ouais.
Le
penguin.
Le légume, c'est une courgette ou une
courgette.
Une courgette.
Noire. Oui.
Courgette noire, voilà. Ouais. Avec un pingouin absolument magnifique.
Avec
et vous avez mis combien de temps pour faire ça? Vous avez mis combien de temps pour faire ce pingouin?
Et là, 8 minutes peut-être.
Bon, ben voilà, Jean-Philippe.
Enfant.
Tu mets combien de temps pour éplucher une pomme de terre?
Plusieurs minutes.
Voilà. Eh bien.
Les pastèques, les langues, tu langues un tout petit peu.
Une heure et demie pour faire donc la pastèque, évidemment. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vous invite à voir, parce que la radio, forcément,
ah oui,
c'est un peu compliqué à décrire.
On n'a pas l'image.
Voilà. Mais si vous vous rendez à ce salon de Saint-Angoël, le salon du printemps, donc à la Halle des Sports, située impasse Sully à Saint-Angoël aujourd'hui, vous pourrez admirer ces sculptures donc faites à partir de légumes. Hein.
Et c'est absolument magnifique. Et je crois justement qu'il y a des ateliers qui sont prévus cet après-midi.
Oui, oui, oui. On peut pas donner trop d'heures parce que ça dépend un petit peu de l'affluence. Mais il y en aura au moins un à 15h. 15h et 16h, 16h30.
Et alors, comment se présentera cet atelier? Qu'est-ce qui va s'y faire?
Ah ben on se présente donc sur son stand, hein, Savoitry Renault. Bon, il n'y a pas de numéro, mais enfin, ça se trouve facilement. Et puis, il y a une table à côté du stand avec tout ce qu'il faut pour travailler.
Et
on
donc,
fournit
ça
les légumes, on fournit... C'est pas la peine de venir avec ses légumes. Hein. On a ce qu'il faut.
Ça s'adresse aux enfants ou alors ça s'adresse aux adultes?
On se pliera au public qui se présentera. On a différents modèles suivant les âges. Il y a du plus simple, la confection d'une fleur en radis, ou un petit peu plus compliqué, le pingouin ou le cygne avec une pomme.
Eh bien voilà, donc rendez-vous est pris. On espère que vous aurez du monde, parce que c'est vrai que c'est absolument, je le redis, mais c'est absolument magnifique. Les confections sont superbes. Et tout est prêt, les petites serviettes, les planches à découper. Alors bon, eh bien, rendez-vous donc à ce salon de Saint-Angoël.
Alors, si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a un atelier de cuisine thaïlandaise. Et puis, si vous voulez découvrir cette cuisine, eh bien, il y a une page Facebook, donc atelier.cuisine.thaïlandaise. Et donc, ça se situe à Ardres, entre Saint-Omer et Calais. Et vous pouvez également vous renseigner au 07 81 10 11 49. Et donc, c'est Savoitry Renault, donc, qui également anime cet atelier de cuisine. Et puis, c'est elle qui fait également aujourd'hui donc ses sculptures sur légumes.
Voilà. Merci beaucoup.
Alors, j'ai une petite, jeune fille.
Oui,
si tu t'appelles?
Charlotte.
Alors Charlotte, je vois que tu es très très intéressée. Tu seras là cet après-midi pour essayer de confectionner quelque chose?
Oui.
Voilà. Eh bien, vous avez déjà quelqu'un. Charlotte sera avec vous et vous allez essayer de lui transmettre, entre guillemets, le béaba de la sculpture sur légumes et sur fruits. Donc, à tout à l'heure, Charlotte.
Merci beaucoup. Voilà, on va repartir en musique d'ici quelques minutes sur Radio Plus. On se retrouvera bien sûr avec une nouvelle interview, n'hésitez pas à venir sur place, c'est Impasse Sully, je vous rappelle, la Halle des Sports de Saint-Angoël, pour découvrir ce salon du printemps. Et puis vous pouvez d'ailleurs vous faire des petites emplettes sur place, hein. Il y a pas mal de choses à voir et pourquoi pas à acheter, hein, si vous avez envie de vous offrir des choses ou de vous faire plaisir tout simplement. Et bien voilà, c'est là qu'il faut être aujourd'hui.
Allez, tout de suite, la troupe Le Roi Soleil.
Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferme à l'étroit, l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur. Un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus.
Radio Plus. Et nouvelle interview tout de suite, Martine, avec quelqu'un que tu viens juste de reconnaître.
Ah, je suis ravie car je retrouve Jean Wisniewski. Et Jean Wisniewski, il est passionné par les pommes. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Et je le retrouve comme ça derrière sa table avec tous ses livres, avec ses pommes. Et je vois que vous n'avez pas changé. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, Jean, donc, je viens de le dire, toujours dans la pomme, et vous avez, c'est vous qui avez,
qui avez,
découvert un petit peu les pommes, ce qu'on appelle les pommes des terriers, en fait.
Hein, c'est les mineurs, avant de descendre au fond de la mine, ils allaient dans leur jardin et cueillaient des fruits pour le repas de lendemain. Arrivés au fond de la mine, quand le charbon était trop dur, alors ils ne mangeaient pas. À ce moment-là, ils remontaient jusqu'à l'ascenseur, et là, ils vidaient son briquet, comme on dit, à ce moment-là. Et dans ce briquet, bien sûr, il y avait tous les fruits. Ces fruits étaient acheminés en haut du terri, ils étaient renversés. Et là, les oiseaux les attendaient, car dans les plaines, l'agriculture à ce moment-là, intervenait avec des produits assez forts, mais il n'y en avait pas d'autres. Donc les oiseaux étaient chassés de ces endroits-là, sont repartis sur les terris où la nature commençait à naître, petit à petit. Et là, quand ils voyaient de la poussière en haut du terri, alors ils se précipitaient sur le bas. Ils savaient qu'il y avait des pommes, des fruits, de toutes sortes qui allaient descendre. Donc ils mangeaient pas en principe les pommes. Les pommes, on sait que les pépins ont une couverture sur eux, disons, sucrée, un peu, disons, et ça permettait aux pépins de se coller contre les schistes. À ce moment-là, quand survenaient les vents d'automne, en octobre et novembre, les fruits se détachaient et partaient à l'aventure plus loin. Et cela formait des niches écologiques où, par la suite, toutes ces variétés-là se pollinisaient entre eux. Donc, ils avaient déjà formé, ils avaient quitté un peu leur enveloppe sauvage, et ils avaient déjà une certaine forme de pomme que on connaît ça par leur forme, bien sûr, par leur saveur, mais là, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que, ayant vécu dans des schistes où il y avait très peu de nourriture pour eux, en fait, ils laissaient, disons, les choses. Donc moi, quand j'ai parcouru ces endroits-là, je me suis aperçu qu'il y avait des pommiers. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Alors je me suis approché tout près d'un pommier, lentement, et j'ai commencé à faire le tour. Comme il y avait des pommes jaunes, j'ai dit, tiens, c'est une golden. Ah, ben, s'il y aurait moins de fruits, les fruits auraient été plus gros. Alors, à ce moment-là, je me suis juré dès que j'avais un an à faire pour avoir ma retraite terminée, je les aurais étudiés. Parce que, mon père était jardinier bûcheron. Donc, c'est lui qui m'a appris à greffer. Et m'a insulté, disons, cette folie de chercher des fruits, de créer quelque chose. Donc, lorsque survenait, donc je me suis promené petit à petit. J'avais lu Darling et tous ces messieurs-là qui avaient fait des recherches, Michurin, Burbank, des champions, mais... Bon, ils étaient aidés quand même, mais moi, j'avais pas de terrain à ce moment-là. Alors, il fallait me débrouiller moi-même. Donc, je commençais à parcourir les abords des terris, tout ça, puis j'ai commencé à sélectionner. Et je dis, je vais essayer de créer quelque chose où il y aura moins de maladies sur les fruits. En les sélectionnant comme Darwin avait sélectionné ça à son tour, ce qu'il avait fait. Donc, j'ai commencé par cueillir les plus beaux fruits, et là, chez moi, bon ben, je les ai conservés, et j'ai gardé les pépins. J'ai commencé à les hiverner, hein, il fallait une température, mais moins froide que les autres variétés. C'était plus court, parce que ils étaient quand même, déjà dans un endroit où il y avait de la fertilité, hein, beaucoup. Et donc, quand j'étais dans mon jardin et que j'avais semé ces fruits-là, je me suis dit, tiens, je vais prendre des pépins, à nouveau. À nouveau, j'ai pris les pépins, j'avais une petite serre, disons, très modeste. À ce moment-là, j'ai pris mes pépins, puis je me suis, disons, observé moi-même, quand même, hein, tous les faits et gestes que je faisais. Je dis, tiens, il fait 14 degrés ici, au 15 mars, c'est bon signe, et je vais les semer. Alors, je me suis mis à semer dans une barquette, et effectivement, une quinzaine de jours plus tard, tout relevé, il y avait plein de pommiers, plein de petits pommiers. Et donc, à nouveau là, je les ai commencé à l'enlever, et j'ai, au mois de mai, je les ai déjà plantés. Au mois de juin, je les ai déplantés, et je les ai mis directement dans mon jardin. Là, et je les ai abreuvés de fertilité, parce qu'il fallait, disons, réconforter et faire une certaine résistance aux gènes. Les gènes devaient changer. Bon, et ensuite, je les ai greffés sur un mentor pour pouvoir voir si ces pommiers-là se stabilisaient, parce que c'était très important. On disait qu'ils revenaient toujours aux ancêtres. Mais comme j'avais fait, c'était complètement faux. Il ne revenait pas aux ancêtres. Donc j'ai poursuivi, étant sur la bonne voie. Et c'est ainsi que j'ai commencé à créer les pommes. Mais à chaque fois que, avant de, disons, de semer quoi que ce soit, pour leur donner un nom, c'est à l'endroit où est-ce que je les avais trouvés.
D'où par exemple la pomme du surgeon.
Comment ?
D'où la pomme du surgeon, par exemple.
Voilà, la pomme du surgeon, eh ben, c'est tout simplement, c'était un pommier qui poussait, disons, en bas du Thierry, un peu éloigné. Et le surgeon, c'est un petit ruisseau qui nous vient, disons, de Marquef. Alors, de ce fait-là, ben, j'ai trouvé tout à fait son nom, tout de suite. Tandis qu'à la Béthune, j'avais découvert aussi pas mal de d'arbres. Et il y avait un arbre qui, justement, je l'ai appelé la pomme Anatole, parce qu'il y avait une tôle en dessous. Et quand ils étaient colorés ou ça, tout ça, des fois, ben, je leur donnais un nom, la belle américaine, par exemple, pour changer un peu.
Mais alors, Jean, qu'est-ce que vous en faites de ces pommes? De cette récolte.
Disons que ces pommes, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je les cueille, bien sûr, et puis je les vends. Je les vends pour acheter mes fournitures. Parce que je ne suis pas, disons...
Donc vous avez encore toujours autant de pommiers dans votre jardin?
Oh, une centaine.
Une centaine de pommiers.
Une centaine de pommiers dans votre jardin.
Mon jardin fait 260 mètres carrés.
Seulement, parce que avec 100 pommiers.
Je les greffe sur un mentor. Il y a parfois 20 variétés, tout à fait différentes les unes des autres. Surtout sur les poiriers, c'est des poiriers. Hein. Sur un poirier, on ne peut pas greffer un oranger. Hein. Je ne prendrais pas. Comprenez? Alors à chaque fois, et c'est ainsi de suite que, puis, quand il s'était stabilisé, comme je disais, je le replantais. Bon, en définitive, lorsque le cycle était terminé que je leur avais imposé, leur avais imposé, à ce moment-là, je les vendais. Je les vendais aux personnes à des prix ou à des associations de jardiniers à des prix moindres. Il fallait un peu être humble dans la création.
Alors, ça veut dire que, évidemment, beaucoup de choses peuvent pousser sur les terris. Beaucoup de choses peuvent pousser sur les terris.
Oui, alors bon...
Il y a maintenant un terri à Haillicourt où on a planté des vignes. Est-ce que vous pensez que ça va donner du bon vin?
Oui, c'est possible, très possible même. Parce que j'en ai goûté à Liévin où on avait fait une vigne. Et ben, le vin était vraiment excellent, hein. Très
comme
doux,
les pommes sont excellentes.
Il passait très bien. J'étais même surpris de la chose. Pourtant, je ne suis pas un buveur de machin, mais j'aime bien les bonnes choses.
Alors, Philippe, on va repartir un petit peu en musique et après, on reviendra voir Jean, parce que Jean est aussi poète à ses heures.
Très bien. Eh bien, on va...
On viendra vous voir tout à l'heure, parce que vous êtes aussi poète à vos heures.
Oui, voilà. On viendra juste après midi pour un petit moment de direct encore. Sur le salon du printemps.
Et donc à suivre tout de suite, ah bah tiens, c'est Oldelaf, nos mains froides.
C'était si beau, la rue monte sous la neige, et je marchais les deux mains dans les poches, toutes trouées de mon pantalon beige. Pourquoi d'ailleurs avais-je mis le plus moche? Je t'ai croisé sans vraiment m'y attendre, et en même temps on avait rendez-vous. Tu as souri et t'es venu me prendre les mains que je planquais dans mon futal à trous. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. Marcher vers la rue des écoles, on s'est posé tout au fond d'un bistrot. Je t'exposais une théorie folle, que par ce temps c'est sympa un thé chaud. Toi tu souriais en plissant tes yeux noirs, que je voyais même sans les regarder. Tu t'es levé, t'as payé au comptoir, puis t'es venu par les mains me chercher. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. On est allé dans ta chambre au sixième, j'avais prévu de te lire des poèmes. T'as mis un vieux disque de Billy Paul, je me suis tué et j'ai lu les paroles. Il te restait quelques gouttes de madère, j'ai dit pas trop, tu m'as servi un verre. Et au moment où j'allais y goûter, tu m'as souri et tu m'as embrassé. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et je me sentais nul. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas sous ton pull. Tu m'as dit gars, j'aime bien tes manières, et moi j'ai dit je connais un poème. Tu m'as souri, t'as éteint la lumière dans mon oreille, t'as glissé un je t'aime. J'aurais dû dire un mot tendre et sympa, mais moi je t'ai juste dit rien du tout. Puis doucement tu t'es collé à moi, et pour le reste ça n'appartient qu'à nous. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais mais je me sentais bien. Tu ne devais pas les trouver si froide, car malgré tout tu les laissas sur tes seins.